Et aujourd'hui, nous sommes à Las, aux portes des Pyrénées.
Aurélie Spez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Béarn. Vendredi, vous étiez à Fort-de-France en Martinique avec Antoine Lee. Et aujourd'hui, retour en métropole dans un tout petit village de la vallée du Gave d'Oloron, à une heure de Pau, au centre du monde. Notre village s'appelle Las et c'est un petit patelin bucolique du Béarn qui en a ras-le-bol d'être anonyme, qui ne veut pas mourir dans l'indifférence et qui s'invente des histoires farfelues pour exister. Un jour, le maire de Las, fatigué de batailler contre les coups de fourche codines des collectivités locales, humilié de n'être qu'un tout petit morceau de campagne à l'abandon, a décidé de faire de Las une principauté, comme Monaco, comme Andorre, évidemment, on pense à Groland. On rigole, on se moque, mais le maire ne se laissera pas faire. Il va monter des équipes d'experts, écrire à l'Élysée, fabriquer des passeports, faire acte de souveraineté. Alors quand on arrive ici en voiture, on est accueilli par les vaches et une baraque de douaniers. Las, c'est 130 habitants avec un château, des courses à la brouette, un futur cabaret qui fait jaser dans le quartier. Jusqu'où peut-on aller pour faire vivre son village, transformer Las en Las Vegas au milieu des vaches et des prés? Et à ma gauche, il est là, le prince de Las, monsieur le maire Jacques Pédéonta. Bonjour.
Bonjour, très belle intro. Et bienvenue en principauté, ravi de vous accueillir.
Monsieur le maire, est-ce que je vous appelle le prince de Las?
Bon, écoutez, vous pouvez toujours m'appeler prince de Las, ça me fait toujours un énorme plaisir. Le tout, c'est que quand je me couche le soir, je réfléchis à la journée que j'ai passée, et le matin, quand je me relève et que je me regarde dans la glace, je me dis, redescends sur terre, mon garçon. Tu t'appelles Jacques Pédéonta et vous pouvez m'appeler Jacques, ça ira très bien.
Je vais vous appeler monsieur le maire ou Jacques Pédéonta. En tout cas, vous avez bien planté le drapeau de Las. Hein.
Comme vous voulez.
Et à ma droite, Clarisse Seigneuret. Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Alors Clarisse, vous avez écrit un mémoire, vous, sur ce village, carrément.
Oui, tout à fait. À l'époque où Jacques a démarré son projet de transformation du village en principauté, je suis venue depuis Paris pour essayer de structurer un petit peu cette idée et j'en ai fait mon mémoire de fin d'études. Ouais.
Monsieur le maire, Clarisse Seigneuret, on est ici sur France Inter, à Las, dans ce petit village du Béarn, et sur un des murs du village, il y a écrit « C'est à Las que pourrait résider un des grands noms du cinéma français, Brigitte Bardot ». J'aime bien ce conditionnel.
Oui, parce que beaucoup de choses sont au conditionnel, finalement. Ça laisse l'esprit vagabond, ça permet d'imaginer des trucs, de rêver. Et comme cette histoire avec Brigitte Bardot, qui est totalement improbable, on est très amis. Et on a 2-3 correspondances par an. La bonne année, parce que ça c'est obligatoire. Son anniversaire, où je lui envoie chaque année un colis de confiture béarnaise avec du jurançon, des douceurs au chocolat, etc. Et on espère toujours qu'elle pourrait venir s'installer à Las. Bon, maintenant, de Las qu'elle vendre la madrague,
c'est pas gagné. Et Marilyn Monroe, il pourrait y avoir une étoile avec à l'effigie de Marilyn Monroe ici.
Alors, il pourrait effectivement y avoir une étoile à l'effigie de Marilyn Monroe, mais les étoiles, les 46 étoiles que vous avez qui ornent le Las Vegas Boulevard, qui est notre Walk of Fame, sont les représentations des artistes qu'on a reçus en 25 ans du Festival des Transhumances Musicales. Et ça va de Manu Chao aux Insus, mais également Yannick Noah, mais également Juliette Gréco, qui elle, pour le coup, est décédée. Voilà, donc c'est notre manière de les honorer.
Je vous parle de Marilyn Monroe parce qu'on va l'écouter, Marilyn Monroe. Rien que pour vous, monsieur le maire, elle vous chante « I wanna be loved by you ».
Mais écoutez, ça me va très bien, hein, et ça me ravit. Vive Marilyn.
Et c'est le choix de qui? C'est le choix de
Djoubaka, votre disquaire maison qui est une anthologie de la musique, ma chère.
I wanna be just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
I wanna be loved by you. Ça va comme ça?
Yes.
C'est du Bernish English, parce que franchement, je suis plus à l'aise en espagnol, mais s'il faut le faire, on va le faire. Hein.
Moi, je trouve que vous débrouillez très très bien.
Ah ouais, oui. Avec les mains, des fois aussi.
Le langage du corps.
C'est ça.
Vous avez rendez-vous ici, place du marché, sur France Inter, dans la principauté de Las, dans le Béarn. Jacques Pédéonta, vous êtes le maire de cette petite bourgade jolie comme tout, très bucolique, avec des blondes d'Aquitaine dans les prés, avec des fleurs un peu partout. C'est un village comme on les dessine dans les livres d'enfants un peu. Vous êtes le maire de ce petit paradis depuis 1983. Et quand vous avez commencé dans vos fonctions de maire, vous aviez 24 ans. Vous êtes ici depuis toujours, Jacques Pédéonta ?
Ben oui, moi je suis né ici.
Vous êtes fils de paysan.
Oui, totalement. Je suis fils d'agriculteur, fils de paysan. Bon, papa et maman ne sont plus là aujourd'hui, mais... et puis voilà, la vie m'a porté. Jean-Claude Killy, que j'avais eu la chance de rencontrer il y a quelques années à Arrête, c'était après les Jeux Olympiques d'Albertville, il avait une formule que j'ai reprise à mon compte et que je trouve très très belle, qui était de dire... Bon, vous savez, j'ai parcouru le monde, les Alpes, Albertville, tout ça. Il fallait se battre pour les Jeux Olympiques. Et de dire dans un petit village voisin, n'hésitez pas à être fier de votre clocher, de votre village, tout en étant citoyen du monde.
Cette principauté, c'est quoi? C'est une blague? C'est une idée farfelue? Il y a des gens dans le village qui m'ont dit, oh là là, ça c'est les délires de monsieur le maire.
Il est fou.
Il est fou.
Eh bien, écoutez, il y en a qui le croient encore. Il hein. Y en a qui croient que je suis un peu dingo, totalement farfelu, peut-être fou, mais enfin pas quand même, mais peut-être le disent-ils. Alors, effectivement, quand en 2011, on a écrit au président Sarkozy, c'est un acte de résistance par rapport à une réforme des collectivités territoriales qui était insupportable dans un esprit français des 36 000 villages qui est notre ADN. dont 26 000 ont moins de 500 habitants. L'histoire de la France, ce n'est pas l'histoire de l'Allemagne et des Länder allemands. Ce n'est pas non plus l'histoire de l'Espagne et des grandes régions espagnoles.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France, c'était une mosaïque de petits pays qu'il faut préserver en tant que tel ?
Oui, je le crois. Et vous disant cela, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un discours qu'on pourrait croire
populiste,
souverainiste, d'enfermement. Moi, je suis profondément européen, je suis dans cette idée de l'Europe et profondément citoyen du monde. Par contre, je pense que c'est au niveau du local qu'on agit le mieux. Et s'il n'y avait pas les 36 000 maires de France, avec leur conseil municipal, qui, pour les 26 000 maires des petites communes, mettent la main dans le cambouis, ramassent les papiers, nettoient le village, coupent des branches, débarrassent les égouts, font le job qui ne se fait pas ailleurs, la France ne serait pas aussi belle, aussi accueillante. Et c'est pour ça qu'on s'est révolté contre le président Sarkozy à l'époque et François Hollande en suivant.
Cette principauté, monsieur le maire, elle se voit partout dans le village, sur les murs du village. On va aller se balader un peu tous les deux dans l'As pour voir un peu comment vous avez transformé cette petite commune. Et ici, sur la table de l'auberge, là où on est, vous nous avez amené tous les symboles de cette principauté. On a des stylos principauté de l'As. Mmh. On a ici le papier officiel, le passeport.
L'autocollant pour vos plaques arrière avant de la voiture.
Alors l'autocollant, il fait très gros land, hein, on est d'accord.
Mais vous savez que Jules-Édouard Moustique est béarnais.
Il habite au Pays Basque, oui, il habite à Guétari.
C'est un transfuge, mais il est béarnais. Son papa et sa maman sont béarnais. Et ça, c'est la future monnaie, la baquette. C'est un exemplaire de la future monnaie de la principauté. Le passeport est le premier objet qu'on a vendu et qu'on a fabriqué en principauté. Alors ce passeport, c'est un véritable passeport qui vous permet de voyager dans le monde entier, d'être protégé du Covid dans le monde entier et de passer les portiques de Roissy sans aucun problème. Les douaniers, rien ne sonne avec ce passeport. Mais il est réel tout en étant faux. C'est comme Brigitte Bardot, quoi.
Elle est réelle tout en étant fausse.
Mais complètement. Non, elle va pas aimer si on dit ça. Et on la respecte beaucoup, Brigitte. Oui, bisous Brigitte, on t'aime.
Clarisse Aigneret, vous êtes à table ici, vous avez fait un mémoire sur cette principauté de l'As. C'est assez rigolo, c'est une initiative complètement baroque. Elle parle d'un problème plus profond, qui est l'oubli des petites campagnes. Comment tout faire pour braquer les projecteurs sur ce petit village ?
Oui, tout à fait. Bah, la principauté, on va dire que c'est un bel emballage cadeau, un peu clinquant, mais qui dissimule habilement un vrai projet de développement, en fait. Voilà.
Ça vous a tellement plu, Clarisse, que vous avez quitté Paris pour venir vous installer ici.
Oui.
Disons que vous aussi, vous allez jusqu'au bout du bout.
Jusqu'au centre du monde. Non, mais c'est... Enfin, bon, à l'époque, pour l'étudiante que j'étais, c'était aussi un formidable terrain de jeu. Il y a tout à faire, tout à construire, et puis voilà, tout à inventer, et c'est quand même assez original, assez génial, ce projet, donc ça se tente.
C'est assez réjouissant.
On rigole bien aussi, oui.
Quand vous avez rencontré monsieur le maire, Jacques Pédéonta, la première fois, vous vous êtes dit, ou il est fou, ou c'est un génie.
Oui, c'est ça. Et avec le recul, je pense que c'est un peu les deux. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Dans tout génie, sommeille un grain de folie, et celui de Jacques permettra au village d'aller très loin, je pense.
Tout ça, cette principauté, c'est une vaste opération marketing, ou c'est plus que ça ?
Non, c'est plus que ça. C'est marketing parce que, bien évidemment, il y a la recherche de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le buzz. C'est-à-dire qu'à travers cette idée, il y a une provocation. Voilà. Donc le marketing vient habiller cette provocation avec tous les goodies, les gadgets. Voilà. Mais c'est plus que ça parce que c'est vraiment une manière pour le village de jouer son avenir, je pense, et de se démarquer et de marquer, voilà, sa singularité, de se différencier. Donc c'est plus que du marketing.
Je tiens une boîte de pâté avec écrit « Cette boîte contient de l'air du Béarn Pyrénées. Ouvrez, respirez et découvrez votre cadeau. »
On vient de distribuer ça pendant 3 semaines sur les routes du Tour de France. On a un conserveur à Sauveterre de Béarn, la famille Gracien, qui a trouvé un stratagème très très sophistiqué pour capter l'air ambiant du Béarn et particulièrement de la Principauté et pour l'enfermer dans cette boîte. Si bien que ça nous fait un paquet cadeau fabuleux.
Ça va sentir le pâté quand même.
Non, parce que là elle est vide et en plus vous avez un petit cadeau à l'intérieur. D'accord. Qui vous permettra de revenir en famille en Béarn. Mais vous disais-je, ce paquet cadeau, si vous l'ouvrez et qu'il n'y a rien à l'intérieur ou qu'il n'y a que de l'air, ça ne le fait pas. Et voyez le truc, votre compagnon, il vous file une super bague pour votre anniversaire, mais c'est du toc. Mais vous allez lui dire, mais Gouja...
Et ça, c'est pas du toc.
Je veux plus de toi.
Et non,
c'est pas du toc. Parce que c'est de l'air de la principauté avec toutes les personnes autour de ce table qui sont pas du toc. Vous allez voir, monsieur Lapouillade, si c'est du toc quand vous allez le toucher. C'est pas du toc, monsieur Lapouillade. Myriam Delcroix avec son projet de cabaret, c'est absolument pas du toc. Elle est remplie à l'intérieur, Myriam.
Et ce village, c'est pas du toc. On va aller se balader dedans. Venez. D'accord. On va aller un peu déambuler. Bon, venez, Clarisse. Là. Venez, monsieur le maire.
Ça marche.
Parce qu'aussi, on va essayer de promener nos auditeurs dans cet endroit quand même un peu différent.
Oui.
Là, on a traversé. On est parti de l'auberge de la Fontaine, là où on était. On est passé devant l'église. On arrive devant une mosaïque. Il y a écrit « Ici, vous êtes au centre du monde » et un panneau avec toutes les destinations du monde. Kinshasa, Dakar, Bagdad, Mani, Katmandou, Copenhague, Bruxelles... Avec tous les kilomètres, comme si ici c'était le nombril du monde qui nous amenait partout ailleurs.
Alors le nombril du monde, c'est marrant que vous parliez du nombril du monde, parce que c'est Pougne Hérisson, le nombril du monde, et c'est Yannick Jolin que j'aime beaucoup, et qui est un bon fêlé également. Et donc, du coup, précisément, là vous êtes au centre du monde. Et donc, l'église s'est mise à sonner parce qu'elle a senti qu'on était au centre du monde, les chiens se mettent à aboyer... Et vous devriez sentir dans votre corps, et les auditeurs en même temps, une émotion qui traverse votre corps. Parce que tous les couples qui viennent ici et qui s'embrassent repartent avec un amour pour l'éternité.
Il paraît que vous faites des mariages princiers aussi.
Ah ben oui, alors Clarisse va vous raconter ça, parce que ça c'est un produit de la principauté.
Mais je pense que cette idée de mariage princier, ça répond aussi à toute une idée qu'on se fait de l'art de vivre à la française, d'un certain romantisme, et qui s'incarne ici dans un côté très champêtre et très bucolique. Les jeunes mariés, quand ils sortent de l'église et qu'ils s'embrassent pour la première fois au centre du monde, c'est quand même assez magique, voilà.
C'est la cloche de la cathédrale de la Principauté. Hein. C'est pas le début du concert d'ACDC, là. Hein.
C'est quoi ce sentiment d'appartenance ici? C'est quoi être gascon, être béarnais?
Bah, y a plein de choses qui font le caractère du Béarn. C'est l'horizon vers les Pyrénées. Y a la fête et l'art de vivre, bien sûr, mais il y a aussi une forme de quiétude. Et cette quiétude, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a apaisée et qui fait qu'on a envie d'y rester. Ouais.
Ça vous a apaisé de quoi?
En quittant Paris.
Vous avez trouvé votre place?
Oui, je crois. Ouais. On peut vraiment être adopté par une région. Et ça a été mon cas avec le Béarn. C'est une histoire d'amour. Voilà. Et on développe aussi facilement un sentiment d'appartenance, en fait. Quand on découvre une terre qu'on a envie de défendre, qu'on trouve belle, qu'on aime.
Là, on traverse la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ça, je ne comprends pas très bien.
Ben écoutez, vous comprenez, Monaco sort de son Grand Prix de Formule 1. Donc, comme à Monaco, on a aussi notre Grand Prix, les 3 heures de la Brouette, qui auront lieu le 21 août prochain.
Alors, c'est la course à la Brouette.
Ah, mais c'est le Grand Prix de la Principauté, sur un circuit de 375 mètres tracé dans les rues du village, avec le podium à 3 marches, Brouette d'or, Brouette d'argent, Brouette de bronze. C'est le Grand Prix de la Principauté.
C'est génial, Brouette d'or. Qui a été Brouette d'or cette année?
L'équipe qui venait des Jeux Béarnais de Bastanès, un petit village à côté d'ici. Et par contre, Brouette de bois, c'est Myriam avec son équipe du cabaret qui a fini dernière. Parce que figurez-vous que la particularité des 3 heures de la Brouette, là, finir dernier est un honneur plus important que finir premier.
Ah, mais on vous reconnaît bien là. Rien ne sert de courir, hélas.
Il faut partir à point.
Il faut partir à point. On est sur la rue principale de ce village de 130 habitants. On est au Las Vegas Boulevard.
Et sur le mur de l'hôtel de ville de la Principauté, vous avez deux étoiles symboliques. L'étoile de Manu Chao, avec qui on est très très amis et très liés. Et l'étoile de quelqu'un, parce que c'est un ami de la Principauté, c'est Axel Kahn, vous voyez.
Je crois qu'Axel Kahn, quand il a fait son voyage en France à pied, quand il a écrit son bouquin, a eu un petit mot pour ce village de Las.
Oui, il a eu un petit mot. Hein. C'est une très belle rencontre, Axel. D'abord, c'est quelqu'un de... Enfin, à la limite, je vais vous dire, j'étais hyper intimidé. Monseigneur Hayé, ça c'est la vérité, c'est notre coprince, m'a fait rencontrer il y a 3 ans le pape François. Imaginez-vous, une audience avec le pape, c'est quand même pas rien. Mais Axel Kahn, c'est un tout autre domaine et c'est pas le pape. J'étais aussi très très ému parce que quand on connaît l'homme humaniste, le physicien, le grand chercheur qui a traversé la France de long en large sur la diagonale du vide, et donc tous ces gens-là, on les honore, Axel Kahn en particulier.
J'ai 2 questions, monsieur le maire. Première question, qu'est-ce que vous avez demandé au pape ? Quelle était cette conversation que vous avez eue avec le pape ?
Je lui ai parlé de l'état d'esprit de la principauté et du désespoir des campagnes de France et du monde, des paysans dans le monde qui ne sont pas reconnus à la valeur de ce qu'ils font et du travail qu'ils pratiquent. Donc on a longuement échangé sur ce sujet. Il m'a encouragé et il m'a dit qu'il fallait continuer. Le plus important est de poursuivre dans la dynamique dans laquelle nous étions, qui faisait sens, y compris à l'angélique qu'il avait proposé.
Donc vous avez eu la bénédiction du pape, monsieur le maire.
Alors j'ai non seulement eu la bénédiction, mais en plus j'ai fait un truc qui paraît-il ne se fait jamais. Je l'ai pris dans les bras et on s'est embrassé. Donc il m'a donné la bénédiction et moi je l'ai embrassé. Quand même sympa, non ?
Pas mal. Et l'autre question que je voulais vous poser aussi, monsieur le maire, c'est que vous me faites vraiment penser à Jean Lassalle, puisqu'on parlait de marche, on parlait de marche en France. Vous êtes du Béarn, comme lui, vous avez un caractère fort, voire excessif parfois, comme Jean Lassalle. Est-ce que c'est votre maître, Jean Lassalle ? Est-ce que vous êtes un disciple ?
C'est un frère d'armes. Dans l'idée de faire passer le message de cette révolte permanente et d'essayer de se faire entendre dans des conditions impossibles où la bien-pensance ne veut jamais vous écouter, dans cette idée-là et de ce qu'il représente avec son mouvement résistant, alors ça c'est sûr qu'il n'y a pas l'ombre d'une feuille de papier entre nous. Voilà, l'engagement est le même.
Est-ce que vous connaissez la famille qui a aménagé dans la maison juste à droite de l'église en face de nous ?
Alors, je les connais sans les connaître, puisque c'est une famille qui est nouvellement installée à Las. C'est une famille de 9 enfants qui est
Vous les connaissez bien quand même, hein ?
Voilà, ils sont traditionnalistes dans leur manière de faire, dans leur manière d'être, dans leur religion. Mais écoutez, on est ouvert et accueillant pour tout le monde et on est ravis qu'ils se soient installés ici.
Alors quand je suis arrivée hier, j'ai rencontré Marie qui rentrait chez elle avec les enfants. Et la vie de Marie, c'est celle d'une mère de famille catholique traditionnelle. Elle le dit elle-même, oui, la vieille France et nous, on est un vrai cliché.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Comment tu t'appelles ?
Anne.
Et qu'est-ce que tu viens de jouer ?
Romance de Beethoven.
Est-ce que tu peux me présenter tes frères et sœurs ?
Alors après moi, il y a Claire.
Tu as quel âge, Claire ?
J'ai 11 ans et demi.
Après toi, il y a qui ?
Blanche.
Bonjour Blanche.
Bonjour madame.
Bonjour. Tu as quel âge ?
10 ans.
Après Blanche, on a qui ?
Mathilde.
Elle est où Mathilde ? Toi, tu as quel âge ?
8 ans.
Après Mathilde, on a qui ?
François.
C'est toi ?
Oui.
François, tu as quel âge ?
7 ans et demi.
Après François, on a qui ?
Pierre.
Bonjour, j'ai 5 ans et demi.
Et après toi, il y a qui ?
Étienne.
Bonjour.
Tu as quel âge, Étienne ?
3 ans.
Tu as 3 ans. Et après toi, il y a qui ?
Et Benoît.
Benoît. Benoît, il est dans vos bras, Marie.
Oui.
Benoît, il parle pas parce que Benoît, il a
17 mois.
Et après Benoît, il y a qui ?
Il y a un petit bébé en route, voilà, pour la fin de l'année.
Et donc, ça fera au total, Marie, 9.
Ça fera 9 enfants.
C'est qui le chef, hein?
C'est Anne.
Qu'est-ce que ça implique quand on est chef?
S'occuper des frères et sœurs. Ouais.
Mettre la table.
Oui, mettre la table, faire la cuisine un peu.
C'est du boulot quand même.
Oui, c'est pas mal de boulot.
Et toi, tu vas faire quoi quand tu seras plus grande?
Moi, je sais.
Toi, tu sais?
Moi, j'ai envie d'être fermière ou éleveuse de chiens.
Ah oui, vous allez où à l'école? Vous allez à Las à l'école?
Non, on va à Domezin. C'est des sœurs qui font l'école.
C'est des bonnes sœurs?
Oui, elles sont super gentilles. On a tous des blouses. On est tous habillés en jupe.
Je vais discuter avec maman.
On avait trouvé une belle bavarde là.
Elle est bien bavarde. Sa sœur aînée est plus timide. Hein.
Sa sœur aînée est très réservée.
C'est un peu comme dans les films chez vous, parce que il y a la grande cuisine avec la table, 10 assiettes, quoi.
C'est ça, exactement, 10 assiettes. Ouais. Nous répondons parfaitement aux clichés et aux préjugés qui peuvent être faits de nous, c'est-à-dire que voilà, on va à la messe et on a plein d'enfants.
Est-ce que si on dit que vous êtes vieille France, ça vous blesse ou pas?
Absolument pas. On est en France, la France est vieille, c'est un vieux pays, il y a des vieilles traditions et on ressemble peut-être plus aux familles d'il y a deux générations.
Il y a votre mari qui revient, on va se cacher.
Non, mais voilà, il est militaire, il a une grosse journée, donc on va, voilà, on le laisse.
Et vous vous êtes rencontrés comment tous les deux?
Au Vietnam et...
Vous n'êtes pas rencontré à la messe?
Non, 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 mais la prière nous a tout de suite unis.
C'est ça, comment vous avez su que vous aviez trouvé une personne avec qui les valeurs allaient correspondre?
En lui proposant de dire le chapelet le soir à mes côtés, avant qu'on aille se coucher, et il a dit oui.
Comment vous avez atterri ici, dans cette maison, dans ce village?
Vous voulez que je vous dise pourquoi?
Oui.
On cherchait une maison, voilà, on ne trouvait pas, c'était compliqué, c'était pendant le confinement. Et dans l'église de Las, je venais prier très régulièrement Saint-Joseph, qui est le Saint-Patron des familles, et je venais le prier ici, en lui demandant « Saint-Joseph, s'il vous plaît, aidez-nous à trouver une maison ». Et 3 ans plus tard, on habite dans la maison la plus proche de l'église.
Merci Marie,
je vous en prie,
bon
Aurélie.
Appétit.
Merci à vous de même, à la bonne auberge de la Fontaine de Las, chez Jean-Luc et Suzy. Régalez-vous.
Chers auditeurs de France Inter, c'était General Electric, Party Like Human. Bravo, Chewbacca.
Mais vous devriez faire de la radio, hein, monsieur le maire.
Ben écoutez, je sais pas, peut-être proposer à votre direction de décentraliser les antennes d'Inter à la maison de la radio pour vous implanter en principauté.
Mais c'est ça, il manque une radio de la principauté ici.
Il faut l'AS Radio, une antenne France Inter délocalisée en principauté.
Ouais, radio principauté.
Radio principauté, puis vous en serez la directrice.
Mais bien sûr.
Dites-lui à Laurence.
À Laurence Bloch.
Mais oui, qu'elle vous délègue cette fonction de vous installer ici en principauté, patronne de la radio de la principauté de l'AS.
Oh, quel avenir.
Mais c'est un avenir radio et brillant.
C'est un avenir
et
radio
bucolique, et bucolique.
Vous êtes toujours sur France Inter, vous avez rendez-vous place du marché, dans le petit village de l'AS, aux portes des Pyrénées, dans le Béarn. Et on est revenu à l'auberge de chez Suzy et Jean-Luc.
Au cœur battant de la principauté.
Et nous ont rejoint ici Philippe Lapouillade. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes gérant du château de l'AS, mais aussi initiateur de la reconquête de ce patrimoine et de l'artisanat en milieu rural.
En fait, je tente de réaliser une partie des rêves de Jacques et de la principauté, oui.
Vous êtes le sujet de Jacques.
Oui, je suis le sujet de la principauté, oui.
Et puis vous nous avez rejoint aussi Myriam Delcroix, bonjour.
Bonjour, ravie d'être là.
Ravie de vous recevoir ici à l'auberge. Elle est très très mignonne hein, cette auberge, on ne l'a pas décrite, mais elle a des volets bleus, pastels. On se croirait presque au bord de l'océan, ça ressemble à ces maisons un peu de Vendée, avec des arbres, avec des fleurs, une terrasse. C'est très romantique ici quand même.
Oui, oui, c'est chaleureux en fait. Finalement, cette auberge, c'est le cœur du village et on s'y sent bien. Et surtout, on y mange très très bien.
Vous avez créé le cabaret burlesque, le cabaret de la principauté. Vous êtes danseuse, Myriam.
Oui, j'ai créé une troupe de cabaret il y a 6 ans qui s'appelle Burlesca. Et c'est une troupe itinérante.
Comment vous avez atterri ici, vous, Myriam ? C'est-à-dire, vous avez atterri avec votre troupe itinérante, un peu comme on fait, nous, à la radio dans cette émission. Et vous avez décidé de vous y installer pour de bon.
C'est une rencontre. C'est on va dire même la rencontre avec Jacques Pedonta. C'est vrai que ça a été un grand moment. Alors, on connaissait l'AS, parce qu'avec avec mon mari et des amis, tous les ans, on tourne pendant 3 heures au Grand Prix international des 3 heures de la brouette.
Vous avez été brouette de bois.
Ah oui, oui, oui. Alors, nous tenons absolument à garder cette brouette de bois tous les ans. Elle est remise en jeu, mais on la récupère parce que nous sommes toujours derniers.
Mais les derniers sont les premiers ici.
Ah, les derniers sont les premiers. Et c'est surtout que nous, ici, on vient s'amuser. Et c'est comme ça que nous avons rencontré Jacques.
Ici, vous voulez faire de la petite chapelle accolée au cimetière. Cette petite chapelle, vous voulez la transformer et en faire un cabaret burlesque. Et il y a pas mal de gens dans le village qui sont pas d'accord. Et quand on est arrivé ici en voiture, il y avait des pancartes un peu de manifestants qui disaient « Stop à cette idée farfelue de faire un cabaret dans la chapelle avec notre argent ». Vous ne faites pas l'unanimité, monsieur le maire.
Non, mais vous savez, dès qu'on touche aux vieilles pierres et aux vieilles églises en particulier, c'est un sujet très délicat et très très sensible.
Est-ce que vous comprenez que les gens du village ici soient déroutés, voire parfois mécontents, qu'on veuille en faire un cabaret ?
Ça, on peut tout à fait les comprendre, les entendre. Bon, le fait est que, si vous voulez, la critique de quelques personnes, bon, elle serait acceptable si ces personnes s'étaient investies pleinement dans ce projet et que ces personnes soient envahies d'une foi soudaine telle qu'elles crient au sacrilège, etc. Or, c'est pas tout à fait le cas. Bon, par ailleurs, la chapelle est à côté du cimetière et je vous garantis que les habitants du cimetière ne seront aucunement dérangés par les spectacles qui se dérouleront dans cette salle de spectacle et par le cabaret que va proposer Myriam, parce que moi-même, un jour, je me retrouverai à cet endroit. Quelle ne sera pas ma joie d'entendre Myriam et les filles évoluer sur scène.
Quand même, voyez, c'est quand même avoué
que c'est décalé.
C'est quand décalé. Même très décalé de voir des filles à jambes en l'air. Il y a une forme de vice juste à côté du cimetière. C'est quand même, c'est un drôle de mélange, non ?
C'est pour ça que le projet est intéressant, parce qu'il choque aussi. Moi, j'aime les choses qui sont différentes. Et en fait, quand j'ai entendu l'histoire de Jacques avec l'envie de faire de sa chapelle, ou de son ancienne chapelle en tout cas, une salle de spectacle et d'y poser un cabaret, on était raccord, complètement raccord, parce que ça n'existe pas en France.
Est-ce qu'il va y avoir des filles dénudées dans ce cabaret ?
Oui, Évidemment, un cabaret sans... Enfin, les danseuses de cabaret n'arrivent pas en tenue de ski, on est bien d'accord quand même. Puis, donc dénudées, oui, mais c'est beau. La femme est mise en valeur, il n'y a rien de vulgaire. Au contraire, on est là pour sublimer la femme.
Il y a des gens qui trouvent ça vulgaire ici, qui disent des filles à poil dans un petit village perdu du Béarn. Non, mais, on n'en veut pas.
Mais vous savez, ces gens-là seront au premier rang de la première qui sera présentée. Et par ailleurs, ce que nous faisons avec ces deux églises est un problème qui interroge les 36 000 maires de France, dont beaucoup ne savent plus que faire de leurs églises. C'est que vous avez aujourd'hui en France 44 000 édifices religieux, dont certains sont en très très mauvais état. Petit à petit, comme les anglo-saxons d'ailleurs, qui vendent leurs églises anglicanes, qui deviennent des pubs, des cabarets, des auberges. Et du coup, quand on est élu, avec la loi 1905, quand on a un édifice sacralisé, c'est très très difficile, parce que là, on ne peut rien faire sans l'avis de monsieur le curé et sans l'avis du pape. Mais quand on est avec un édifice qui était en ruine, eh bien écoutez, je pense que si on l'avait transformé en cave à vin, il y aurait eu autant de problèmes. Moi, je préfère sourire de cela, positiver sur le projet de Myriam. Et puis, ce sera unique au monde, ma chère dame. Parce qu'on a une petite référence qui est Kirviller en Alsace.
Avec il y a un cabaret à Kirviller. Non, mais c'est vrai, il y a une vogue. Il y a une vogue des cabarets en milieu rural. Hein.
En province.
Hein.
Oui, tout à fait.
C'est un retour du cabaret.
C'est un retour du cabaret, mais c'est surtout que le cabaret en province est en train d'évoluer. Et je dirais même de manière très positive, puisqu'il est en train de se moderniser. Et ça, c'est quelque chose de très très important, parce qu'on est toujours sur le modèle de Paris et sur la revue parisienne, on est calé sur ce modèle. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir en province des cabarets qui n'ont rien à envier aux cabarets de Paris. Hein.
Philippe Lapouillade, je vous laisse finir votre petit morceau de jambon.
Oui, qui est fameux, merci.
Jambon de Bayonne.
C'est ça,
fabriqué
même.
En Béarn.
Fabriqué.
Avec du sel de salice de Béarn.
Je vous laisse, ça y est, vous l'avez avalé.
Oui, je vous remercie. Bon, attendez, je prends un petit verre de Jurançon.
Pour faire passer tout ça.
Je suis à vous.
Vous avez enlevé votre béret.
Bah oui, il fait chaud maintenant. Hein. Oui,
vous êtes habillé en béarnais, on peut dire ça?
La tête, le cerveau, le cœur, les poumons aussi. Voilà, oui, il y a marqué effectivement Principauté de Lass, avec l'emblème. Voilà, je suis un fier sujet de la Principauté.
Vous tenez le château de Lass, surnommé le château des énigmes. En voilà une énigme.
Eh bien, comme vous avez parlé longuement du cœur de Lass, je dirais que le château, c'est les poumons, c'est ce qui fait respirer le village. Au papa, maman et les enfants. Enfin, c'est la connivence qui se crée entre les générations. Le fait que les enfants font exactement la même chose que les parents. Donc les parents sont contents parce que les enfants sont contents. Et les enfants sont contents parce qu'ils font comme papa et maman. Voilà, c'est ça.
Il y a quelque chose que j'ai lu concernant votre vie, Philippe Lapouillade. C'est qu'à un moment donné, vous visitez les châteaux de la Loire avec vos enfants. À ce moment-là, vous êtes au chômage. Et il y a une de vos filles qui vous dit « Moi, je m'ennuie, c'est toujours la même chose. Dans ces châteaux de la Loire, on a toujours les mêmes rituels, on fait toujours les mêmes parcours. » Vous, vous avez envie de transformer un peu l'idée qu'on se fait d'un château. Et votre fille adolescente, vous dit « Oui, mais toi, t'es au chômage, comment tu vas y arriver ?» Et là, ça vous pique au vif.
Effectivement, une période de ma vie où je suis un ancien industriel, en fait. Il y a une période de ma vie, j'ai arrêté de travailler et on visitait les châteaux de la Loire. Bon, les enfants étaient petits et ma fille, je critiquais la façon dont on visitait les châteaux. Voilà, on montre l'endroit où Louis XV s'est assis, etc. On était très passéiste et il n'y avait pas à l'époque d'approche festive pour s'amuser. Enfin, on concevait pas le château comme un monument de plaisir, comme un monument où on pouvait passer un bon moment, etc.
Ça veut dire que le château, comme on le visite dans le château de la Loire, est un château musée avec lequel on est déconnecté aussi.
C'est exactement ça. Et donc je fais une réflexion à table et je dis ces châtelains n'ont pas d'imagination. Et ma fille qui est adolescente. Ma fille me dit, toi qui es si malin, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un château, voilà. au dépourvu, je dis, je créerai un grand parcours, on s'y amuserait, il y aura un parcours de jeu appuyé sur l'histoire de France, sans complexe, pour s'amuser, pour passer un bon moment, on y viendrait deux, trois heures, etc. Voilà. Et Coralie me dit, fais-le. Et donc, c'est un défi que cet enfant, cette adolescente me lance. Et puis, on s'est mis ensuite à la recherche d'un monument historique. On a choisi le château d'Usson en Charente-Maritime. On l'a ouvert au public. On a eu un succès d'estime, comme on dit quand les gens vous encouragent, mais qu'il n'y a pas de clients. Et puis, au fil du temps, on est devenu le château le plus visité de Charente-Maritime. Et on a développé après d'autres châteaux des énigmes, appuyés sur la même idée de multi-activité.
Un peu comme un escape game.
C'est escape game qu'on appelle Escape Castle, qui est une marque qu'on a déposée parce que on a créé les premiers escape games dans un château en France. On a aussi été les premiers à mettre des cabanes dans les arbres dans le parc d'un château en France. Enfin, les premiers, pas tout à fait, parce que Catherine de Médicis faisait déjà construire, elle, des cabanes au XVIe siècle dans ces châteaux. Donc, on est...
dans la continuité.
Voilà, on est dans la continuité.
Il y a une continuité de l'histoire ici, à Las. Le Béarn, ça a été une principauté jusqu'à la moitié du XVIIe siècle.
Un État indépendant.
Monsieur Philippe Lapouillade construit des cabanes dans la droite lignée de Catherine de Médicis. On est avant-garde, mais on suit le cours de l'histoire ici.
Oui, je crois qu'on est en train, en permanence, que ce soit Myriam avec son projet de cabaret, Philippe avec ce qu'il vous a raconté de sa vie et de la gestion du château, qui renferme la deuxième plus belle collection d'Aquitaine, mais qui sommeillait. Et il a réveillé cette gestion sommeillante en l'inscrivant dans la modernité. Et du coup, on est en permanence les pieds bien sur terre, profondément en mouvement et inscrit dans la modernité. Si Catherine de Médicis avait fait des cabanes dans les arbres, l'idée du travertissement, du cirque, de la danse, Myriam vous l'a dit, la tradition du cabaret, c'est très très ancien.
Ce qui est intéressant, c'est que en ce qui concerne cette ancienne chapelle, elle a été complètement restaurée par des femmes. Et demain, dans ce cabaret, ça sera un cabaret uniquement qui sera proposé avec des femmes aussi et avec une histoire vraiment de femmes derrière. Donc je trouve qu'il y a une vraie continuité de l'histoire et c'est ça qui est intéressante. Et quand j'ai appris cette histoire de cette chapelle, j'ai dit mais c'est incroyable parce que moi je ne fais travailler que des femmes et je suis un petit peu féministe quand même.
Philippe Lapouillade, qu'est-ce qu'on trouve comme pièce, comme trésor historique dans ce château de Las ?
Oh bah, y a des dessins de Bruegel, il y a des tapisseries, il y a la deuxième collection d'art de la table de France, enfin d'Aquitaine. Enfin voilà, c'est encore ma folie des grandeurs d'avoir confondu la principauté avec la totalité du pays.
En même temps, vous n'êtes pas si loin de la réalité, hein, Philippe.
Pour embrayer par rapport à Myriam et à Philippe quand même, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que on est parti de quelque chose de très singulier, peut-être décalé et pas très sérieux au départ, pour avancer dans l'émission vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et finalement, c'est ça la finalité. Parce que ce que vous a pas dit Philippe, c'est que son projet est avant tout économique. Depuis qu'il est arrivé à Las, il a 25 salariés, dont des jeunes des alentours qui trouvent chez lui un emploi. Myriam, elle a tout plaqué pour une aventure économique.
Vous allez embaucher Myriam ?
Oui, bien sûr, évidemment, parce que, déjà au niveau le plateau artistique, hein, avec les artistes.
Intermittente ?
Oui, bien sûr, intermittente. Il y aura aussi des artistes qui feront d'autres disciplines, hein, du chant, du cirque. Ce sera une vraie revue, en fait, avec plein de tableaux qui vont se succéder. Et on aura aussi du staff en salle.
C'est faire la preuve que dans un petit village de France de 140 habitants, on peut s'installer, s'épanouir, vivre, travailler, gagner sa vie, faire quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque part casser cette idée reçue qu'il n'y a pas que les 12 métropoles de France. La France est belle, mais l'Europe est belle. On est fait d'une diversité, d'une multiplicité de religions, d'influences politiques, de lieux et de ces maires de France qui font vivre leur village.
Ça vous fait de la peine, monsieur le maire, quand on dit que vous êtes fou ?
Oh non, ah mais c'est un compliment. Je me demande si ceux qui le disent ne le sont pas plus que moi.
Alors monsieur le maire, vous allez nous lancer le prochain disque qui s'appelle La vie est belle.
Eh bien, encore ce cher Djoubaka qui nous fait une programmation remarquable.
Et sur mesure. Hein.
Et sur mesure, La vie est belle.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc vos tours pour manger. Se régaler. Amis, vos tours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
Sur France Inter, vous avez rendez-vous place du marché dans le petit village de Las, aux portes des Pyrénées, dans le Béarn.
France Inter, rendez-vous place du marché, Aurélie Spèze.
Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ils sont. On a fait venir le groupe.
Ben écoutez, d'abord, c'est des amis de la principauté. Et c'est l'un des meilleurs groupes du Béarn, puisque l'une des traditions du Béarn, c'est le chant, et la polyphonie en particulier. Et Araya et Didier Foy en particulier sont de ceux qui ont participé il y a une vingtaine d'années à relancer le mouvement de la langue, de la culture et du chant béarnais.
Vous, avec Araya, vous avez fait des millions de vues sur YouTube.
On a la particularité d'être un groupe polyphonique, mais avec des instruments. Il n'y a pas tant que ça de groupes polyphoniques. Souvent, ce ne sont que des voix. Et nous, on a fait le pari de s'instrumentaliser, mais de laisser quand même en avant les voix, la musique étant un support qui vient, on va dire, donner un peu plus d'éclat à ce qui se produit en voix. Et
vous donc, êtes un groupe d'hommes.
Alors, nous, j'ai l'habitude de dire que nous sommes un cœur d'homme mixte, parce que dans les 20 personnes qui constituent le groupe, il y a 3 filles voilà, qui sont...
Elles ne sont pas là.
Elles ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'on est en pleine semaine et que tout le monde travaille. Mais elles font partie intégrante du groupe. Elles ont des rôles très spécifiques dans le groupe, dont une est soliste et co-animatrice du groupe avec moi. Donc, on a vraiment besoin d'elles. Ça donne une valeur ajoutée d'ailleurs à ce cœur d'homme.
Un groupe de polyphonie, c'est une équipe aussi, ouais. C'est une amitié. Chanter ensemble, c'est souder une amitié.
Ah ben c'est, enfin, en tout cas notre groupe, c'est presque un groupe, je veux dire, à mort programmé, puisque en fait c'est que des gars de la même génération ou très proches, en tout cas en génération, qui étions des joueurs de pelote, des joueurs de rugby, des joueurs de foot, issus du même de la même cité. Et voilà, on avait envie de prolonger cette amitié sportive en amitié plus artistique, musicale. Ça fait quand même déjà 20 ans que ça dure et on a envie que ça dure quelques années de plus.
Vous êtes là, on est devant l'église en fait. C'est un joli panorama au milieu des arbres. C'est un chœur de combien d'hommes ?
Et aujourd'hui, nous sommes 8.
Voilà. Vous me les présentez, leurs prénoms ?
Oui, je vous présente à la guitare Yves, dans le pupitre de basse Jean-Marc et Béniat, au caron, aux percussions Jean-Louis, dans les normales Bruno, et dans les hautes Jacques et Alain, et moi-même qui vais chanter en normal avec Bruno et qui vais commencer par un petit solo de trompette, une intro trompette.
Qu'est-ce qu'on va chanter ?
Alors, nous allons chanter une chanson béarnaise qui s'appelle « Amo d'Aussau ». C'est un hommage au pic du Midi d'Aussau qui est très représentatif ici en Béarn et qui raconte l'histoire d'un monsieur âgé qui refait un peu le parcours de sa vie en regardant, en voyant qu'il n'est plus apte à trop sortir de sa maison. Alors il trouve de quoi se consoler en repensant, en revisitant ses souvenirs dans sa tête.
On va partir dans ses souvenirs, voilà. Dans la vallée d'Aussau.
Dans la vallée d'Aussau, à travers.
Avec vous, Araya.
Merci.
Vous êtes tous très très beaux.
Merci.
Thank you.
béarnaise, habitant de la Principauté. Merci à tous et à très bientôt sur France Inter ou ailleurs.
Adicha.
Réalisation Benoît Thuo. Préparation de l'émission Raphaël Pusgva, assisté de Julia Martin. Programmation musicale Djoubaka.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Et demain, vous retrouverez Antoine Lee à Roubaix, dans le département du Nord.
Merci à tous.